Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio. Acteur de changement, il est tourné vers l'innovation. Il ne se contente jamais de peu. Il pousse l'information dans les moindres détails. Guillaume Lavoie.
Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Merci d'être à l'écoute, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il y a quelque chose de peut-être marquant, sinon d'important, ou à tout le moins qui nous fait sourire en politique américaine. Vous vous souvenez de Sarah Palin, celle qui avait été cette fameuse candidate aux côtés de John McCain, qui était cette espèce de hockey mom qui avait révolutionné pendant un certain temps la politique américaine? Eh bien, elle s'était présentée aux fameuses élections de mi-mandat. Et aujourd'hui, on a eu les résultats après de longs décomptes. Elle a perdu sa réélection. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a dans cette défaite de Sarah Palin une revue des 16 dernières années d'un phénomène qui peut-être arrive à sa fin. Alors, tout commence en 2006, il y a 16 ans. Sarah Palin est mairesse d'une petite ville bien ordinaire d'Alaska et elle se présente comme cette « hockey mom » petite ville pionnière d'une nouvelle manière de faire de la politique au sein du Parti républicain, c'est-à-dire de faire des appels du pied à des gens qui ont des méfiances envers l'État, faire des discours qui sont complètement dénués de révérence envers les institutions, envers l'État. On utilise le mensonge quand ça nous aide. On fait des attaques très dures, notamment envers les médias et envers ce qu'on pourrait appeler avec un E majuscule l'establishment. Et à la surprise générale, en 2006, elle va battre le gouverneur républicain sortant dans une assemblée de nomination et elle va devenir comme ça gouverneur de l'Alaska. Et en 2008, pas tellement longtemps plus tard, la campagne du grand John McCain va pas très bien. Il a besoin de quelque chose pour brasser la cabane un peu, pour brasser les choses face à un Obama qui est au sommet de sa popularité. Et John McCain va la sortir de l'anonymat et la faire mettre sur une scène aux yeux du monde entier et elle devient la candidate à la vice-présidence des États-Unis, rien de moins, celle qui disait qu'elle voyait la Russie depuis son perron ou à peu près en Alaska. Et ça a vraiment été le début au sein du Parti républicain d'un modèle politique. Je vous disais que on était à l'opposé des inclinaisons de l'establishment, c'est-à-dire de se comporter de manière noble, responsable. Au contraire, il faut incarner un vecteur de colère. Il faut se moquer de la connaissance de ceux qui sont à l'intérieur du système. Il faut démontrer de la haine envers les démocrates, envers l'autre camp, et faire des appels du pied, de l'hypersymbolisme de religiosité. Je suis plus croyant que toi, donc je suis meilleur. Et amplifier cette méfiance généralisée envers les institutions, qu'elles soient financières, de pouvoir, politique et les médias. Elle parlait souvent des « lamestream media » qui vous mentent éperdument. Et d'ailleurs, si vous voulez voir cette chose-là prendre forme, je vous recommande d'aller voir ou revoir ce film documentaire absolument fascinant qui s'appelle « Game Change ». Mais il y avait là un modèle d'affaires politiques. Certains voulaient le donner et faire de Sarah Palin espèce de pionnière ou d'actrice engagée pour ce modèle politique-là. Et à la fin, elle a décidé de ne pas donner suite. Et c'est là qu'on a embauché ou se sont rencontrés les ambitions personnelles de Donald Trump et le modèle d'affaires politiques qu'on avait vu émerger avec Mme Palin. Et Mme Palin, elle n'est pas retournée en politique. Elle est allée faire beaucoup, beaucoup d'argent, télé-réalité, Fox News, vous voyez la chose. Mais comme Trump a réussi, elle a donné naissance à plusieurs petits Trump, plusieurs gens au Parti républicain qui voulaient aller de l'avant, copier son modèle. Eh bien là, elle s'était présentée aux élections partielles récemment en Alaska, elle a perdu. Et là, elle se présentait de nouveau. Et l'Alaska, c'est plutôt un terreau républicain. Elle a perdu encore contre une démocrate. Peut-être qu'elle a... Alors, voici comment on peut lire la chose. Sarah Palin était la pionnière de la montée d'une nouvelle manière de faire de la politique très populiste au sein du Parti républicain. Ces choses-là, avec sa défaite, sont peut-être... On voit qu'elle est la pionnière de l'effondrement de ce modèle-là. Et en voyant ces choses-là se mettre ensemble, on ne va pas célébrer tout de suite, mais je repensais à ce vieil adage perse qui avait été repris par Abraham Lincoln, qui disait « ça aussi, ça va finir par passer ». C'est peut-être ça la bonne nouvelle qu'il y a dans tout ça.
Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde dans tous ses états.
On se dirige tranquillement vers Noël et la grande étape ou le grand rendez-vous commercial avant Noël, c'est le Black Friday, le moment où on passe de l'encre rouge à l'encre noire au sein des commerces, mais c'est devenu beaucoup une espèce de furie de la surconsommation. Et pour voir les choses différemment, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser davantage les choses que l'on possède déjà ou que peut-être vos voisins possèdent déjà et que ça dort dans leurs armoires, dans les garages? Bien, il y a quelqu'un au Québec qui a lancé une application pour qu'on soit capable de mieux se partager et de mieux se connaître entre nos voisins. Ça s'appelle le Partage Club. Alors, allons rejoindre la fondatrice de l'application, Fauve Doucet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous, en préparation, en réaction à l'espèce d'hyperconsommation du Black Friday, on pourrait faire autrement et vous avez créé une application pour ça. Comment ça marche?
Exactement. Bien, en fait, l'application, on met nos coordonnées, on met notre nom, notre prénom et on a accès en fait à un catalogue d'objets de nos voisins qui sont en fait très à l'aise à les prêter. Ou encore, on peut publier un besoin. Donc, j'ai besoin d'emprunter une souffleuse ce matin parce qu'il y a très neigé. Ou j'aimerais emprunter en fait un moulin pour faire des saucisses pour le temps des fêtes. Donc, c'est d'emprunter entre voisins au lieu d'acheter.
Bien, c'est déjà là. Et j'imagine qu'il y a derrière ça, outre une volonté de s'inscrire dans les préceptes de l'économie collaborative, c'est peut-être quelque chose qui aide à, aider à créer des liens entre les voisins, par exemple.
Tout à fait. Bien, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que emprunter quelque chose, c'est un peu le brise-glace. Parce qu'on se rend compte, en fait, que les gens ne connaissent pas leurs voisins. Même des gens me disaient en milieu rural, les gens, c'est tricoté serré. Détrompez-vous, en fait, les gens ne connaissent pas partout au Québec leurs voisins. On va connaître notre voisin de droite, de gauche, mais pas nécessairement quelques rues tout près. Donc, ce que ça permet, en fait, c'est de créer un lien de confiance. Donc, d'une première mijoteuse, par la suite, les gens vont se prêter des voitures, puis ils vont créer de l'entraide, puis ils vont peut-être justement s'entraider même entre eux autres.
Oui, attention, par exemple, Fauve Doucet, moi, je viens du monde rural, je peux vous dire qu'à route rurale numéro 4, tout le monde se connaissait et tout le monde savait tout de tout le monde. Il y avait un peu de terre vide là-dedans. Mais dites-moi, souvent, ces belles idées-là, ces beaux préceptes-là, j'imagine qu'au départ, il faut prendre conscience de tout ce que l'on possède qui est très, très peu utilisé. Est-ce que c'est quelque chose où vous pensez que les gens ont conscience de toutes leurs possessions qui dorment dans leur garage, dans leurs armoires, dans les garde-robes?
Non, on s'en rend pas compte. Puis ce qu'on se rend compte justement dans l'application, souvent les gens vont arriver dans l'application puis ils vont se dire « mais qu'est-ce que je pourrais bien prêter qui pourrait être utile à un voisin? » Puis ils commencent à regarder ce que les gens ont mis. Puis ils se rendent compte que c'est inimaginable les choses qu'on possède, qu'on utilise peut-être une fois ou même pas du tout dans une année. On a été vraiment, si on veut, formaté à posséder les choses et pas nécessairement à juste les utiliser parce qu'on veut les avoir tout de suite, maintenant, quand c'est disponible. Mais le Partage Club, ce que ça permet en fait, c'est de rendre les objets très facilement fonctionnels et utilisables parce que c'est vraiment à deux pas de chez soi.
Oui, puis là, vous avez raison, les choses pas utilisées. Moi, je pense toujours à cette fameuse ligne d'Yvon Deschamps. Personne touche à mes outils. Moi-même, j'y ai jamais touché. Mais Fauve Doucet, dites-nous, souvent ces belles idées-là ou des choses qui font plein de sens là, en théorie meurent sur l'autel de « oui, mais y arrive quoi si on me le remet pas? Y arrive quoi si ça brise? » En utilisant votre application, est-ce que ça permet de régler ou de parer à certaines de ces inquiétudes-là?
Oui. En fait, pour l'instant, comment qu'on fonctionne, puis on a fait des projets pilotes et ça s'est très bien passé. on demande à chaque emprunteur de ramener l'objet tel qu'il était. Donc, s'il y a un bris, et il va y en avoir parce que les objets sont sous-utilisés et là, ils vont être plus utilisés. Donc, c'est pas par négligence, c'est juste que c'est la réalité des choses. Donc, on demande à l'emprunteur de le ramener comme il était, soit d'en racheter un autre ou idéalement de le réparer. Mais à moyen terme, en fait, d'ici l'été prochain, on travaille pour ajouter une assurance à travers l'abonnement. Parce que le Partage Club, c'est d'abord en fait un abonnement annuel pour y accéder, qui est de 60 $, donc 5 $ par mois, pour pouvoir justement ne pas acheter, sauver de l'argent et emprunter entre voisins.
Est-ce que tout le monde peut s'inscrire à votre application ou il faut passer par l'association qui a les membres? Comment ça marche?
Actuellement, l'application est dans un marché test dans une ville du Québec. On est rendu à 160 membres. C'est la version alpha. Pour le temps des fêtes, ce qu'on offre sur le partage.club, c'est un 2-pour-1. Donc, se procurer en pré-vente son abonnement à 60 $ et d'en obtenir une deuxième à offrir en cadeau pour Noël, offrir la sobriété. Et l'application va arriver juste pour Noël. Donc, tous les gens, on a déjà 1200 personnes qui ont déjà acheté leur abonnement en pré-vente et qui l'attendent partout au Québec. Donc, les gens qui veulent se la procurer peuvent y aller dès maintenant et elle arrivera pour Noël. Et on va envoyer des trousses de démarrage pour que les gens puissent inviter leurs voisins. Et chaque voisin qui sera invité aura un 3 mois d'essai gratuit.
Alors, ah, OK. Dites-moi, dans votre fonction de test là, ou version alpha, qu'est-ce qui se prête le mieux? Qu'est-ce que les gens prêtent davantage? Est-ce qu'il y a des choses que, ah oui, ça marche vraiment beaucoup? Ou c'est les pelles à neige? C'est les équipements de sport? C'est les outils? Est-ce que quelques articles pour que les gens se disent « Ah, ben oui, c'est vrai. Si d'autres le font, je me sens peut-être dédouané de le demander ou de l'offrir davantage. »
Tout à fait. C'est très variable. Puis on pourrait même pas penser ce que les gens peuvent avoir besoin et emprunter. Mais on a beaucoup d'articles de cuisine. Là, c'est le temps des fêtes. Il y a plein de recettes qui vont, des virines, des verres à champagne. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup d'outils. Donc, une biscuiteuse, une ponceuse, c'est vraiment... très en demande. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec les jouets pour enfants et tout ce qui est attrait en fait à des bébés comme des exerciceurs. Puis là, ce qu'on voit arriver en fait, c'est tout ce qui est en lien avec le saisonnier pour s'occuper du terrain, donc la souffleuse bien entendu, mais je dirais que là, c'est encore un petit peu tôt. Donc, on a plus vu des pelles, mais cet été, on avait des projets pilotes, il y avait des cages à marmottes, il y avait des pièges à marmottes, pardon. Il y a eu les costumes d'Halloween. Donc, c'est vraiment variable.
Donc, une véritable approche qui est à la fois socio-communautaire et à la fois d'économie collaborative. Souvent, l'économie collaborative, c'est pas de faire plus avec moins, faire plus avec ce qui existe déjà. Puis je vous partage une statistique qui, moi, m'avait sidéré. Et là, les gens qui nous écoutent, là, regardez à gauche, regardez à droite, 85% de ce que vous possédez sert moins d'une fois par mois. Et si c'est des équipements de cuisine et que vous êtes chez moi, ça sert à peu près jamais. Parce que, bon, mes talents de cuisine me permettent de faire bouillir de l'eau ou à peine. Fauve Doucet, alors, fondatrice de l'application Partage Club, vous allez nous aider à rendre nos si on s'inscrit chez vous pour un jeudi éco-collab, on serait capable de transformer nos fameux vendredis fous à vendredi plein de sens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Au plaisir.
Avec Guillaume Lavoie, pas de détour. Seulement un lien direct vers des solutions logiques.
Allons maintenant parler à Philippe Lorange, notre collaborateur, qui est, lui, collaborateur à l'Action nationale, étudiant en maîtrise en sociologie. Parlons de vie nationale, justement. Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Alors là, on dit souvent la démographie, c'est la reine de toutes les autres questions, ou c'est le roi, c'est selon. Bref, c'est celle qui prime le plus. Et là, on a eu, cette semaine, des nouvelles assez troublantes. Le poids démographique du Québec qui baissait. Mais là, on a eu une projection que sur une échelle de 20 ans, ce qui est demain matin, est presque en chute libre.
Une chute assez importante, je crois, là, parce que c'était dans la presse, on voyait une projection qui montrait que d'ici 2047, donc d'ici 25 ans, là, en ce moment, on sait que le Québec compte pour 22% de la population canadienne. Mais si on y va avec les seuils d'immigration qui sont projetés par le gouvernement du Canada actuel, là, le Québec baisserait à 18%. Donc, si on garde les seuils actuels de 430 000 à nouveaux arrivants par année, bien, on serait à 19,5 %. Donc, dans tous les cas, le Québec baisse de manière importante. Puis c'est une régression qui continue depuis, il faut savoir, depuis les origines de la Confédération. Aux origines, on avait juste les Anglais et les Français, c'était 50-50, si on veut.
On n'a pas besoin de remonter loin. Je pense que, de mémoire, dans les années 70, le Québec pesait pour à peu près 30 % de la Confédération.
Oui, oui. Puis c'est important ce qu'il faut savoir parce que la démographie, c'est le destin. C'est un mot qu'on prête à Auguste Comte, peut-être à tort ou à raison, mais qui a quand même beaucoup de vrai, je crois, parce que la démographie va avoir beaucoup d'impact sur la politique comme telle, sur la composition politique des élus, sur les idées qui circulent. Parce que ce qui faisait en sorte que dans les années 80, 90 et avant, qu'on parlait de la question du Québec dans le Canada, c'est parce que le Québec pesait pour beaucoup. Il y avait une démographie importante, une population importante. Donc il fallait savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette population-là. De quelle manière peut-elle être canadienne ou du moins...
Ouais, c'est un poids au Parlement aussi. T'arrives avec une délégation importante. Y a pas beaucoup de politiciens fédéraux qui se disent c'est absolument fondamental qu'on gagne l'île du Prince-Édouard pour former le gouvernement. Alors, ça colore tout le reste. Alors là, j'imagine, poussons la logique plus loin, là. Et il y a un peu d'avocat du diable là-dedans, Philippe Lorange. Ou bien, pourquoi le Québec prendrait pas ce que j'appellerais la solution ontarienne, c'est-à-dire on va gonfler notre population tellement qu'on va finir par, non pas diminuer le poids du Québec dans la Confédération, mais l'augmenter massivement. C'est un peu ça que les Ontariens font.
C'est une solution qui est apportée. Je crois que c'est une fausse solution. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada anglais, depuis plusieurs années, n'a pas vraiment d'identité nationale, n'a pas de culture nationale. Si on voit au Canada anglais, par exemple, à la télévision, ce qu'ils écoutent souvent, c'est les nouvelles américaines. Ils n'ont pas forcément de série canadienne-anglaise. Il n'y a pas, en tant que tel, une culture canadienne-anglaise. Les Canadiens anglais sont quand même très américanisés. Après, j'ai un grand respect pour eux, malgré tout. Mais c'est un fait qu'ils n'ont pas d'identité nationale très forte. Tandis qu'au Québec, on a une culture distincte comme telle. On est une société distincte, une nation particulière qui a ses propres séries, ses propres artistes, qui se distingue du reste de l'Amérique du Nord. Donc, pour nous, la question de l'intégration des nouveaux arrivants se pose de manière extrêmement importante, pas du tout de la même façon que chez les Ontariens ou chez les autres Canadiens anglais. Ce qui fait en sorte que si on accepte encore beaucoup plus d'immigrants qu'on le fait actuellement, bien, on va avoir une difficulté d'intégration. Puis on le voit en Europe, l'intégration, c'est une question qui est majeure, qui est cruciale dans le débat public, qui est même explosif. Et là, en ce moment, ce qu'il faut savoir, nos seuils sont à 50 000 immigrants par année, des immigrants permanents. Mais si on compte les immigrants temporaires avec ça, on sait qu'en 2019, on a fait accueillir 200 000 personnes, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers au Québec et des travailleurs temporaires. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration, il y en a beaucoup là-dedans qui sont anglophones ou qui sont des anglotropes. Donc, autrement dit, des gens que...
Des anglotropes. Ça mange quoi en hiver, ça?
Sûrement, même chose que tout le monde. Mais en gros, un anglotrope, c'est quelqu'un qui a une langue maternelle qui est plus proche de l'anglais que du français. Et souvent, les anglotropes ont plus tendance à s'angliciser qu'à se franciser.
Mais c'est qui, ça? C'est les Néerlandais?
Les Polonais, par exemple, ou des langues comme ça. L'allemand aussi. Tandis que l'espagnol, c'est francotrope, donc c'est plus proche du français.
Les langues latines versus les langues anglo-saxonnes.
Oui, si on veut. Okay. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration qu'on reçoit actuellement, quand on regarde les spécialistes, les démographes, je pense notamment à Frédéric Lacroix, à plusieurs autres, ils nous disent que l'immigration en ce moment contribue fortement à notre anglicisation massive dans le Grand Montréal. Donc là, on en a 50 000 par année des permanents. Là, si on voulait suivre la tendance de 500 000 par année telle que projetée par le gouvernement fédéral, il faudrait en accueillir 115 000. C'est plus que le double, ça, là. Puis là, on a déjà de la difficulté à construire des logements. Puis là, d'ailleurs, il manque de gens dans la construction partout, là.
Mais cet enjeu-là, par exemple, le logement, qui est un réel enjeu, c'est le même en Ontario, c'est le même en Saskatchewan, c'est le même au Nouveau-Brunswick, là.
Mais si je peux me permettre, justement, on veut pas se retrouver dans la même situation que Vancouver ou Toronto, où, justement, il y a une inflation extrêmement importante des logements. Puis on le voit, justement, ici à Montréal, on parle depuis un certain temps de la crise du logement. Mais là, si on fait venir de plus en plus de monde, là, on est certain que ça va être un désastre du logement. Parce que ces gens-là, même s'ils veulent travailler, ils veulent contribuer à la société, ils veulent s'intégrer, il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas forcément le temps de construire autant, mais trouver même si on avait le temps, il faut aussi faire quelque chose qui est adéquat pour les besoins et pas faire des cellules de prison, si on veut. Là. On veut faire quelque chose qui est bien pour l'avenir, pas faire rapidement les choses. Donc ça, c'est une première chose. Puis deuxième chose, on veut que le Québec garde son élément français, sa culture aussi.
Oui, et ça, et la langue, c'est une chose, la culture, c'en est une autre. Et c'est une intégration toujours plus difficile. On va se reparler de ce thème-là, mais je veux mettre quelque chose. Et d'ailleurs, Philippe, on se reparlera de ça. On parle toujours de l'immigration comme des gens qui arrivent d'ailleurs, qui viennent ici. Puis on fait le constat, il y en a tant qui sont allés en Ontario, il y en a tant qui sont allés au Québec, il y en a tant qui sont allés se perdre en Saskatchewan ou autre. Mais c'est juste une partie de l'équation, ça. C'est de le regarder juste d'un côté de la lorgnette. Parce qu'une fois que tu es entré au Canada... tu peux aller, quelqu'un qui arrivera à Montréal peut aller vivre en Ontario, et l'inverse. Et mon PIF me dit, surveille-nous ça la prochaine fois, historiquement, il y avait plus le bilan migratoire interprovincial, c'est-à-dire est-ce que les gens quittent plus le Québec pour une autre ou l'inverse, le Québec avait toujours un bilan négatif. Donc, il y a plus de gens dans une année qui allaient vivre dans le reste du Canada à partir du Québec que l'inverse. Mon pif, c'est que comme Montréal est une ville moins chère que Toronto ou d'autres, qu'il y a un bilan migratoire positif, c'est-à-dire qu'on reçoit plus de gens de l'extérieur de la province de Québec qui vivaient au Canada qu'avant. Ce qui viendrait complètement, peut-être pas tricher les chiffres, mais apporter une lecture complètement différente. Parce que là, qui arrive en Ontario ou qui arrive au Nouveau-Brunswick, si l'année d'après sont au Québec, c'est des chiffres qu'on ne voit pas. Là.
C'est important. En effet, je peux retrouver les chiffres là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que dans les dernières années, on savait qu'il y avait beaucoup de sorties. Parce qu'il y en avait qui arrivaient au Québec, qui se pensaient que ça allait tout se passer en anglais. Puis finalement, ils ont vu que c'était un peu différent. Il y a toutes sortes de situations aussi qui font en sorte qu'ils vont rejoindre la famille en Ontario ou ailleurs. Donc, les Québec, c'est comme l'entrée de départ. Donc, évidemment, il faudrait retrouver les chiffres pour savoir où est-ce qu'on en est dans le bilan migratoire comme tel. Mais ce qu'on sait, c'est que en ce moment même, peu importe le bilan migratoire, il y a une telle chose qu'il y a une immigration importante que reçoit le Québec actuellement. Puis, le Québec n'a pas la capacité d'intégrer autant de gens, du moins dans les seuils que veut Ottawa. Puis même les seuils qu'on a actuellement, c'est ceux qui ont été dictés par Jean Charest, qui ont suivi par la suite, qui sont devenus une norme sociale. Mais eux aussi, ils portent problème. Parce que historiquement, c'était 20-30 000 au Québec.
Oui, oui. Mais là-dessus, et ce qui est fascinant, je faisais remarquer à quelqu'un récemment que ce soit les chefs de la CAQ, du Parti québécois, du Parti libéral ou de Québec solidaire, les quatre ont des chiffres vastement en dessous des seuils annoncés par le gouvernement Trudeau. Alors, il y a peut-être une union québécoise plus forte que l'on pense sur ce thème-là. Parlons des fameux critères EDI pour obtenir des bourses, des fonds de recherche. Alors, explique-nous d'abord c'est quoi des critères EDI, puis comment ça se fait que ça existe quand je parle de fonds de recherche.
Bon, mais c'est ça. Le terme EDI va finir par se connaître de mieux en mieux dans les prochaines années parce que c'est comme devenu, j'appelle ça peut-être exagérément, mais j'appelle ça un nouveau communisme quasiment, là, parce que c'est rendu partout. EDI, c'est un acronyme pour Équité, Diversité, Inclusion. Donc, ça paraît bien comme ça.
Oui, à date, ça n'a pas l'air de faire peur. Alors, explique-nous là, où est le drame.
Le communisme là-dedans, oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que EDI se fonde sur les États-Unis, les grands mouvements woke là-bas. Donc, autrement dit, on dit qu'il y a du racisme systémique en société. Il y a du patriarcat, il y a de la transphobie. Donc, à partir de ce fameux constat, entre guillemets, on dit, pour réparer les injustices passées, le colonialisme, le patriarcat, il faut faire des actions pour retrouver un équilibre social. Donc, quelles sont ces actions-là? On dit tout simplement, les entreprises, par exemple, je sais pas, il y a juste 3% de noirs chez les hauts cadres. Donc, il faut monter à 15%, par exemple. Donc, quelle est la solution à ça? On fait de ce qu'on appelle la discrimination positive. Donc, autrement dit, on fait exprès d'élire des gens sur un CA parce qu'ils ont une certaine couleur de peau ou parce que, par exemple, ils ont dit qu'ils étaient transgenres ou parce qu'ils ont un handicap en question. Donc, ça s'impose de plus en plus ici même au Québec.
Mais ça, la discrimination positive, c'est pas particulièrement nouveau. Mais là, ce que je comprends, c'est que c'est ça sur les stéroïdes, là.
Oui. Mais ça, c'est discrimination positive. Ça se faisait déjà au Québec, par exemple, pour les gens qui ont un certain handicap mental, parce qu'on sait que c'est objectivement plus difficile pour eux de trouver un emploi. Donc ça, on pouvait comprendre. Mais là, pour les personnes, par exemple, qui ont une couleur de peau autre, une orientation sexuelle, un genre différent, on a envie de demander, est-ce que leur vie est tellement... Est-ce que c'est si difficile que ça de trouver un emploi par rapport à quelqu'un qui est hétérosexuel?
Mais là, c'est pas un emploi, c'est des demandes de bourses faire des recherches.
C'est ça. Là, ça entre dans les bourses. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche le Fonds de recherche du Québec. Puis c'était des professeurs qui ont dénoncé la chose il y a quelques jours de ça. Puis il y a quelques jours, c'était aussi Patrick Moreau, le directeur de la revue Argument. Et donc, il dénonçait le fait que depuis un an, depuis septembre 2021, les bourses du Fonds de recherche du Québec, donc pour ceux qui étudient à la maîtrise ou au doctorat au Québec, maintenant, ils doivent répondre à des critères EDI tels que dictés par l'ONU. Donc, l'ONU a comme 17 objectifs de développement durable. Encore une fois, ça paraît bien comme ça. Mais quand on connaît un petit peu quelle est l'idéologie qui oriente l'ONU, quels sont les grands critères de l'ONU, on sait que souvent, ça penche un peu du côté quand même bien-pensant, puis woke, si on veut. Ça se va de plus en plus vers là. Donc, j'ai peur que, si je suis pas le seul, justement, il y en a plusieurs qui dénonçaient la chose dans les journaux, c'est que les bourses soient orientées vers une recherche militante pour la justice sociale.
Philippe Lorange, là, entendons-nous, c'est pas des bourses de soutien, par exemple, comme les fameux programmes de prêts et bourses, là, c'est des bourses d'excellence pour des recherches. Là,
absolument.
OK, alors, mon postulat de base, puis peut-être que c'est révolutionnaire ou que c'est non fréquentable, c'est ben la bourse devrait aller là où le potentiel de recherche ou l'habilité du chercheur est la meilleure. Là, ce que tu me dis, c'est que c'est pas ça du tout. Là, maintenant, c'est quelle est mon orientation sexuelle, quelle est la couleur de ma peau, quelle est mon appartenance ethnique, puis c'est ça qui guide quelque part une partie des facteurs.
Cela dit, pour le moment, de ce que j'ai vu de la bourse, ce qui ne demande pas encore tout de suite la couleur de peau, tout ça, mais c'est, comment dire, EDI, ça va s'en venir, ces genres de choses-là. Pour le moment, ils se concentrent vraiment sur les objectifs de développement durable. Donc, ça va beaucoup s'orienter sur le fait que, est-ce que votre recherche est utile pour l'environnement, le développement durable, puis la justice climatique, la justice sociale. Donc, inévitablement, on va venir à la couleur de peau, le genre, tout
ça. Ce qui me dérange, même là, même sans venir à ça, ce qui m'inquiète profondément, il est dangereux d'orienter la recherche. Absolument. Même au nom d'objectifs gentils, bons, nobles, orienter la recherche, personne ne peut savoir. Par exemple, la recherche fondamentale, ça mène où? La majorité des choses qu'on invente sont inventées ou découvertes par hasard.
Par accident, parfois, ben oui.
Et alors, orienter la recherche, on pourrait se dire, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne met pas toutes nos ressources pour trouver un remède au cancer, puis on laisse faire les autres? Orienter la recherche, c'est le début d'une espèce de dictature du prédéterminisme, là. Il y a quelque chose de néo-marxiste dans cette chose-là. Là, c'est le gouvernement Legault qui est au pouvoir. Tu m'as dit que c'était des fonds de recherche du Québec. Coudonc, là, qui ils font quoi de leur journée là, au gouvernement?
Ben, j'ai envie de dire, c'est parce que au gouvernement Legault, parfois, j'ai l'impression que c'est pas. Ils sont pas forcément dans l'idée de guerre culturelle. Donc, parfois, ils laissent la fonction publique faire un peu leur bêtise, puis ils vont laisser faire. Parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre qu'il y a comme il y a toute sorte une idéologie qui s'impose dans la fonction publique, qui s'impose après dans les universités, dans toutes sortes d'institutions. Donc, ça fait en sorte que je pense que François Legault et son gouvernement ne comprennent pas que, dans le milieu universitaire, la fonction publique a l'air de contribuer au wokisme, comme on le voit actuellement. Puis ce que je trouve dommage, c'est que c'est François Legault qui a lancé la commission Cloutier, qui s'interrogeait sur ceux qui faisaient une enquête sur
la liberté d'expression à l'université.
Oui, puis c'était pas si mal quand même, les conclusions, puis après les solutions qui étaient apportées. Donc, c'est une bonne chose. Puis on se rappelle, c'est ça, François Legault est contre le wokisme, il veut la liberté d'expression, la liberté académique, mais après, j'ai envie de dire, il faut des actions, puis il faut surveiller les fonctionnaires. Parce que là, eux autres, ils s'en viennent avec des idées comme ça. Ça passe comme si de rien n'était, une lettre à la poste.
Philippe Lorange, là, t'arrives avec quelque chose de révolutionnaire. Es-tu en train de me dire qu'on peut pas juste se fier au discours des élus? Ça prend aussi des actions qui vont avec? Ben là, écoute, là, on va être obligé de changer complètement notre grille d'analyse. C'est le genre de choses qui m'inquiète jusqu'à maintenant. Quelle est la chose, là, une chose, en terminant, que le gouvernement Legault, là, il y a un nouveau ministre, ici, ça va être la ministre de l'enseignement supérieur, Mme Pascale Derry, quelle est la chose qu'elle devrait faire tout de suite? Elle commence un nouveau mandat.
Il faut vraiment s'assurer que la recherche ne soit pas orientée, comme tu dis. Il faut vraiment s'assurer que ça reste toujours objectif le plus possible, qu'il n'y ait pas de militantisme, qu'il n'y ait pas de critères EDI, qu'on n'essaie pas de chercher à être le plus écologiste possible, d'orienter la recherche. Peu importe c'est quoi la vertu qu'on prône, le nouvel enjeu qui est à la mode, faut jamais orienter la recherche. Parce qu'il faut laisser les chercheurs faire leur sujet. C'est important parce que, comme tu dis, on découvre des choses par accident. Puis parfois, il y a des sujets qui n'ont pas forcément une utilité concrète. Par exemple, je pense à ceux qui font de la recherche en philosophie transcendantale. Mais rapidement, comme ça n'a pas une grande utilité sur le plan économique. Mais ça permet de mieux réfléchir sur le rapport de l'homme avec le monde qui l'entoure. Puis ça, c'est quand même important pour l'avenir du monde.
Oui, puis il faut avoir ce que j'appelle la bonne inclinaison du chercheur. C'est que le chercheur doit chercher la vérité, mais avec l'humilité que ça se peut que sa thèse soit invalidée. C'est pas la même chose que de chercher à confirmer coûte que coûte ce que l'on croit déjà. Ça, c'est plus de la recherche, c'est du militantisme subventionné. Philippe Lorange, qui est notre chroniqueur à la vie nationale, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Au plaisir.
Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Vous écoutez Guillaume Lavoie. Le professeur qu'on aurait tous voulu avoir.
Cube Radio.
Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Marie Montpetit, bonjour.
Allô, Guillaume.
Alors, Marie, parlons des médecins de famille, alors les omnipraticiens, qui font plus de paperasse que de santé, semble-t-il. Et là, M. Dubé, lui, voudrait mettre ça dans sa liste des priorités. Là. J'ai l'impression que là, j'ai mis M. Dubé comme ministre, mais j'aurais pu dire ça de plein de ministres avant lui. D'abord, parle-nous du phénomène de la paperasse. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, là, les médecins?
Ouais, je sais pas si Christian Dubé veut mettre ça dans ses priorités, mais chose certaine, il doit mettre ça dans ses priorités. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Là, c'est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, Dr Amiot, qui a fait quelques sorties dans les derniers mois en disant finalement que c'est énorme. Là. C'est 20 à 25 % du temps des médecins de famille qui est consacré à remplir de la paperasse. Donc, au lieu de voir des patients, c'est le quart de leur temps où ils sont en train de remplir toutes sortes de formulaires du genre par exemple, pour avoir accès à des assurances. Il y a des affaires qui sont quand même assez surréalistes. Un peu, par exemple, si tu veux aller voir un psychologue et que ce soit pris en charge par tes assurances, bien, il y a certaines assurances qui vont demander que tu aies une ordonnance du médecin. Donc, il y a toutes sortes de formulaires comme ça parce que les assurances demandent d'avoir une référence d'un médecin de famille pour pouvoir aller voir un autre spécialiste, que ce soit un physio ou un masso, peu importe. Puis, donc tu sais, ils sont embourbés dans de la paperasse. Puis, j'entendais le docteur Agnew, c'est quand même fou, là. Il disait qu'il y a 9 000, à peu près, là, 9 000 médecins de famille au Québec. S'ils réduisaient juste de 2 heures par semaine le temps qu'ils consacrent à toute cette bureaucratie-là, tous ces papiers qui sont pas toujours utiles, ils récupéraient 18 000 heures de services, 18 000 heures que les médecins de famille pourraient consacrer à voir des patients. C'est complètement effarant, là, le temps qui est perdu.
Oui, il y a un bout, là. Permets-moi, Marie, d'être un peu avocat du diable là-dessus, là. Il y a un bout où est-ce que c'est vrai, là, mais le transfert direct de s'il sauvait 2 heures en paperasserie, il serait transféré exactement 2 heures en service. Je suis pas sûr, moi, si ce serait pas transféré 2 heures de temps libre. Le pacte avec le diable chez les médecins, c'est un peu la rémunération à l'acte. Et là, je vais me faire plaisir, je vais te poser la question, Marie. Est-ce que, voici le deal qu'on pourrait faire, là. Quand t'es ministre de la Santé, imagine ça. OK, on va vous soutenir pour la paperasse, on va vous libérer, mais votre incorporation, on va vous la faire sauter. Vous n'êtes pas des travailleurs autonomes, c'est une fabulation de l'esprit, vous êtes des employés de l'État, puis vous allez arrêter de pouvoir déduire sans cesse énormément de coûts. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait avancer comme négociation avec les médecins?
Ben, si tu veux partir une révolution avec les médecins de famille puis une guerre ouverte, c'est probablement une bonne approche, mais c'est surtout que je pense pas qu'en bout de ligne, on serait gagnant ni comme population, ni comme ministre, parce que, tu sais, les deux heures en question, non, ça se transformera pas en temps libre, parce que justement, tu dis bien, un médecin, pour être payé, il doit facturer, il doit être en train de faire quelque chose. Donc, s'il n'est pas en train de remplir un formulaire, il va être en train de voir un patient parce qu'il veut être capable de faire un bilan complet. Puis là, dans sa facturation, il va dire ça coûte tant, tu sais. Donc, je regardais le fédéral, justement, le gouvernement fédéral, eux, ont changé dernièrement leur façon de fonctionner. Ils n'exigent plus de preuves pour leurs fonctionnaires pour avoir accès justement à certains professionnels, comme je disais, que ce soit de la physio, des psychologues et autres. Le gouvernement du Québec doit s'impliquer aussi pour ça, parce que la FMOQ là, est en train de faire ces démarches-là auprès d'assureurs. Elle essaie de les convaincre. Mais tu sais, si Christian Dubé, à l'heure actuelle, là, il doit être en mode solution. Ça, c'est une des solutions. Tu sais, je regardais les derniers chiffres. Tu as 1,2 million de patients au Québec qui sont orphelins, qui n'ont pas de médecin de famille. Tu en as plus de 800 000 qui sont en attente sur ce qu'on appelle les fameux guichets d'accès à un médecin de famille. Et dans le contexte d'un vieillissement de la population, tu sais, moi, j'en ai eu plein, là, comme député, des gens qui nous appelaient en panique, malheureux, parce que, par exemple, leur médecin de famille avait pris sa retraite. Puis, du jour au lendemain, ces c'est des centaines de patients vulnérables dans certains cas qui se retrouvaient sans médecin
oui,
de famille.
Oui, moi, ça nous est arrivé. Nous, notre famille, on avait un super médecin de famille. Elle a quitté la pratique. Puis là, ben, c'est organisez-vous avec vos troubles. Ça, c'est un peu un drame. Mais tu mets le doigt sur quelque chose parce que le gouvernement, c'est deux choses. Hein. C'est un législateur qui organise beaucoup de services, mais c'est aussi un des plus gros employeurs. Donc, sa force comme gestionnaire, elle est gigantesque. Et le gouvernement du Québec, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que Christian Dubé devrait prendre une marche jusqu'au bureau de Mme Sonia Lebel, qui est présidente du Conseil du Trésor, qui est un peu l'employeur en chef, et dire « Faites-nous sauter certaines obligations pour nos assurances collectives. » Et ça, ça pourrait alléger de l'autre côté du pipeline les exigences aux médecins, là.
Ben, entre autres, puis avec toutes les grandes compagnies d'assurance. Je pense que quand tu vois la tu sais, je pense que dans ces démarches, Christian Dubé doit se demander l'énergie qu'il met, elle lui fait gagner quoi à la fin, tu sais. Puis ça, c'est une démarche qui tu sais, d'entreprendre des négociations ou de sensibiliser, tu sais, main dans la main avec la FMOQ, les différents partenaires, puis les assureurs, puis de leur dire, écoutez, est-ce qu'il y a moyen, je sais pas, d'enlever tel formulaire ou la même chose, les formulaires qui ont été mis, là, ça, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une aberration, là, pour aller consulter un médecin spécialiste, t'es obligé d'aller voir un médecin de famille. Donc, si tu veux aller voir, par exemple, un dermatologue pour, parce que ta fille, ton gars, tu sais, je veux dire, a besoin de voir un dermatologue, t'es obligé d'aller voir un médecin de famille pour qu'il te fasse un formulaire pour consulter un médecin spécialiste. C'est tout le temps qui est mal utilisé par des médecins de famille.
Le pipeline à l'entrée. Moi, mais j'en démarre pas. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir la faire sauter, cette fameuse incorporation. On va se garder ça pour une prochaine bataille, t'as raison. Là, il y a... je pense à cette vieille chanson, je pense que c'est Patsy Cline, là. J'ai un amour qui veut pas mourir. C'est ceux qui sont amoureux de la réforme du scrutin qui, dans leur tête, va révolutionner pour le mieux la démocratie québécoise. Ils se préparent à faire une super manif à l'Assemblée nationale.
Oui, ben là, c'est ça. C'est une coalition qui tente de relancer encore le débat sur le fameux mode de scrutin. On en a parlé beaucoup au lendemain de la dernière élection, au lendemain du 3 octobre, justement, parce que c'est un peu farfelu, les résultats. Ben, pas farfelu, mais ça soulève des questions d'avoir des groupes, entre autres, d'opposition qui ont des résultats similaires en termes de pourcentage de vote, mais qui se retrouvent de 21 députés à aucun député du tout dans le cas, par exemple, du Parti conservateur avec M. Duhaime, alors que finalement, le PLQ, la CAQ, QS et le Parti conservateur sont allés chercher un nombre de votes quand même assez similaire, très, très similaire, même, je dirais. Et là, il y a une coalition qui veut relancer ce débat-là, qui vont aller manifester, comme tu dis, devant l'Assemblée nationale mardi en pleine rentrée parlementaire. Tu sais, la grande question, c'est est-ce qu'une réforme est encore possible, dans le fond? Puis François Legault, là-dessus, a été quand même assez clair. Lui, il se lancera pas là-dedans. C'est comme plein de partis, il était d'accord de se faire élire. Il était d'accord quand il était dans la deuxième position. Puis la journée où il a formé le gouvernement, il s'est bien empressé de dire « Ouais, je remets ça aux oubliettes, finalement, je balaye ça en dessous du tapis, on passe à un autre appel. »
Ça, c'est le côté scandaleux de la chose parce que à la limite, les bons gouvernements doivent renoncer à leurs mauvaises promesses. Moi, je pense que c'est quelque chose de périlleux pour le Québec, parce qu'on ne devrait pas analyser un système démocratique sur la base du résultat d'une élection. Il faut le voir sur une tendance vaste et longue, au moins sur une ou deux générations. Et en passant, le score de la CAQ à cette élection-ci est exactement le même que celui du gouvernement Lévesque en 76. Mais plus que ça, ce qui me fascine en disant, mais là, François Legault a abandonné sa promesse. Oui, mais il est quand même allé devant l'électorat et a été élu. Ceci était très connu, là. Alors, s'il faut s'en remettre au jugement populaire, le jugement populaire est très clair. Les gens ont voulu avoir un gouvernement qui ne ferait pas de ça une priorité. Je regrette un peu, Marie, que François Legault ait dit que ça intéresse juste une gang d'intellectuels. De tous les arguments contre la réforme, celui-là était sans doute le plus mauvais, le plus dénué de sens de l'État. Mais je me pose la question... Est-ce que ça va avoir des jambes après? Est-ce que tu vois arriver, par exemple, une union des partis d'opposition pour déposer motion après motion, pour garder la chose vivante pendant encore un autre mandat, là?
Non, je pense pas, parce que, tu sais, oui, c'est malheureux les propos qu'a tenus François Legault quand il a dit qu'il s'intéressait seulement une poignée d'intellectuels au Québec, alors que, bon, il y a plusieurs sondages qui montrent que les gens sont intéressés par le dossier. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'ils réfléchissent pas à ça en mangeant leur céréales puis leur toast le matin, là. Donc, en tout cas, moi, si j'étais encore dans un parti d'opposition, ça ferait pas partie de mes grandes priorités à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des enjeux hautement plus importants à l'heure actuelle sur nos services publics, sur les palais de justice qui débordent, le réseau de la santé qui craque, l'éducation, les écoles où on n'a pas de profs. C'est quoi? C'est pas les enjeux qui manquent. Puis là, tu ajoutes toute la question de l'inflation à ça, les organismes communautaires qui sont mis à la rue, les gens qui n'arrivent pas à manger. Une fois qu'on a tout dit ça, je pense que le débat sur le mode de scrutin, il faut qu'ils sortent des mains des politiciens. Il faut pas qu'ils soient liés, parce qu'à chaque fois qu'il y a un calcul qui est fait, moi j'ai participé à ce genre de discussion-là, tu sais, tout le monde regarde, ouais, ok, mais au lendemain de ce changement ou de la mise en place de tel mode de scrutin, est-ce que moi je suis encore là comme élu? Est-ce que moi, comme formation politique, ça vient m'avantager ou ça vient me désavantager? Donc, tu peux pas demander à ces gens-là d'être juges et partis. Tu sais, il faut sortir ça du politique, sortir ça des partis politiques, mettre ça peut-être dans les mains du DGEQ, tu sais, du directeur général des élections du Québec, que lui entame une réflexion là-dessus. Ouais. Comme là, il va se lancer d'ailleurs dans la réforme, si tu veux, mais il doit revoir la carte électorale. Hein. Donc, il se lance dans ce processus-là. Peut-être qu'il y a une discussion qui devrait être faite en même temps sur le mode de scrutin.
Ouais, Marie, peut-être que là, ça va nous prendre une bonne vieille technique que les philosophes et les sociologues connaissent, le voile de l'ignorance de John Rawls. Arrêter de réfléchir à un système de scrutin sur la base de « est-ce que ça fait gagner mon parti ?» ou pas, mais plutôt quel genre de société on veut. Ça, ce serait peut-être intéressant. Marie, mon petit, merci beaucoup. On se reparle demain. Au plaisir.
À demain, Guillaume.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde. Analyse le monde dans tous ses états.
Vous avez peut-être vu cette nouvelle, ma foi, atroce, troublante, choquante. Un enfant de 6 ans, imaginez, a été victime d'une agression sexuelle par son grand-père, qui était l'agresseur. Et la raison pourquoi on a trouvé la chose, c'est que la petite fille souffrait d'une maladie transmise sexuellement. Alors, comment est-ce que ça va? L'angle qui est intéressant ici, c'est un trauma de ce genre-là à un enfant aussi jeune. Et comment est-ce qu'on fait pour s'en remettre? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que ça va affecter son développement? Comment est-ce qu'on peut commencer à voir cette chose-là? Eh bien, pour en parler, rejoignons Anne-Charlotte Giverne-Héroux, qui est intervenante psychosociale auprès des familles à la Fondation Marie-Vincent. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a bien sûr pris connaissance de cette tragédie, mais allons au-delà du cas individuel. Il y a des enfants qui vivent des traumas absolument terrifiants. Comment est-ce qu'on fait pour penser la suite pour ces enfants-là qui se sont fait voler leur enfance? Ça laisse des traces extraordinairement profondes. Comment est-ce qu'on peut envisager la suite?
Oui, nous, en fait, à Marie-Vincent, on offre des services psychosociaux, psychothérapeutiques aux enfants, aux familles. Donc, les enfants arrivent là, souvent référés par des intervenants du réseau, soit par les intervenants au CLSC, à la protection de la jeunesse, en milieu hospitalier, des policiers, suite au dévoilement d'agressions sexuelles. Puis dans le fond, on offre des services là, aux parents pour mieux accompagner leurs enfants, puis également là, de l'intervention psychosociale auprès des enfants pour développer des habiletés là, pour faire face aux traumas dans leur vie.
Et là, pardonnez-moi, c'est pas de la curiosité morbide, mais aidez-nous à comprendre quel genre de traitement ça peut être, quel genre de service, quelle forme ça peut prendre.
Oui, en fait, quand l'enfant arrive sur la liste d'attente, c'est sûr qu'il y a un délai d'attente là, pour avoir des services chez nous. Heureusement, il a diminué dans les dernières années, puis c'est sûr qu'on souhaite le diminuer encore.
Juste, excusez-moi, il y a un délai, parce que là, on imagine le choc là, des gens qui nous écoutent, il y a un délai d'attente face à un trauma de ce genre-là. Le délai, c'est combien de temps? Vous dites que vous l'avez réduit. Donnez-nous un ordre de grandeur, qu'on prenne conscience de la détresse, là.
Absolument. Les services à Marie-Vincent, en fait, c'est des délais de 18 mois actuellement, donc on sait que c'est énorme.
Pardon, avez-vous dit 18 mois, un an et demi?
Oui. Oui, pour avoir des services thérapeutiques spécialisés à Marie-Vincent. Par contre, la famille n'est pas laissée à elle-même là, pendant ce délai-là. Donc, une fois que la demande est reçue à Marie-Vincent pour des services, il y a une offre d'intervention immédiate aux parents. Donc, pour être capable de justement encaisser le choc du dévoilement de leur enfant, de ce qu'ils ont vécu, puis les outils là, à mieux accompagner leurs enfants aussi pendant ce délai-là.
Bon, on reviendra sur les enfants, mais je pense à le cas ici, une enfant de 6 ans, un délai de 18 mois, c'est presque le tiers de sa vie là, que vous lui demandez d'ajouter en plus. Puis là, je comprends que c'est pas votre faute à vous, mais on a conscience qu'il y a, ça veut dire qu'il y a un décalage entre l'offre de services que vous êtes capable de présenter et la demande. Donc, c'est pas un cas unique là, des enfants qui subissent des traumas de ce genre-là.
Malheureusement, c'est pas un cas unique. C'est sûr que plus on en parle aussi, plus les jeunes vont être en mesure d'identifier l'agression qu'ils ont vécue et de le dévoiler. Donc, c'est quelque chose qui est moins tabou qu'il l'était. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de demandes, parce que les gens en parlent plus. Par contre, ça nous permet d'aider davantage d'enfants aussi.
Alors, revenons sur quels sont les services ou les traitements, quelle forme ça prend pour l'enfant ou les familles?
Bien, nous, dans le fond, comment on fonctionne, c'est que chaque enfant, chaque adolescent est unique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une clinicienne va faire une évaluation des besoins du jeune pour venir cibler un peu ses difficultés, ses besoins, ses forces, puis comment on peut travailler autour de ça. Donc, l'intervention va vraiment être adaptée à chaque enfant en fonction de ses caractéristiques, de son âge, de sa compréhension aussi de ce qu'il a vécu. Donc, ça peut passer par l'intervention psychosociale, donc un peu plus travailler sur son fonctionnement, sur ses symptômes, sur comment il va ici et maintenant. Comme ça peut aller jusqu'à de la thérapie, là, donc vraiment travailler sur des difficultés qui remontent à plus loin là, dans sa jeune enfance, en fait. Là.
Comme un genre de psychanalyse, du soutien psychologique?
Ben, c'est beaucoup de l'éducation psychologique, du soutien psychologique. On travaille aussi là à identifier les émotions, à être capable de les communiquer, puis identifier les pensées aussi qui sont reliées à ça. Par exemple, là, la culpabilité est souvent présente chez les jeunes qui sont victimes. Hein, ils ont l'impression que c'est de leur faute. Tout ça, c'est des pensées erronées. Donc, c'est des choses qu'on travaille à déconstruire là, comme pensée avec nos jeunes.
Quand vous dites, et la Fondation Marie-Vincent, que ce soit avec les publicités que j'ai déjà vues sur la Fondation, le discours que vous avez là, évidemment, vous visez les enfants, mais donnez-nous un ordre de grandeur. Qu'est-ce que c'est un enfant à la Fondation Marie-Vincent? Quel âge à peu près?
Bien, on prend les références jusqu'à 18 ans pour le volet d'agression sexuelle. Donc, les plus jeunes, moi, que j'ai rencontrés dans ma pratique, étaient âgés autour de 4 ans. Puis ça peut aller jusqu'à 18 ans. S'ils ont été référés avant leur 18 ans, là, on va poursuivre l'intervention. Donc, une fois qu'ils ont 18 ans, on va pas arrêter soudainement du jour au lendemain. Donc, on va terminer l'intervention par rapport à leurs besoins là, avant de fermer.
Et pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur? Dans une année, vous pouvez être en soutien à combien d'enfants ou de cas ou de familles?
Dans la dernière année, en fait, là, les statistiques qu'on a compilées, c'est qu'on a accompagné 315 jeunes pendant une moyenne de 10 semaines de suivi. Puis on a offert 383 services, autant aux enfants qu'aux parents, là, combinés.
Et vous êtes, pour les gens qui nous écoutent à la grandeur du Québec, vous êtes actif où? Est-ce que vos patients peuvent venir de partout au Québec?
En fait, on est situé à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Il y a un centre aussi qui a ouvert en mai dernier à Châteauguay. Donc, c'est sûr qu'il faut que la personne soit prête à se déplacer dans nos locaux. Par contre, même si la personne habite plus loin en région, si elle est prête à se déplacer à Montréal, je pense par exemple là, à la Rive-Sud, à la Rive-Nord, ils peuvent venir, là, puis on prend les références quand même.
Dernière question. Dites-nous, si jamais on était confronté à des situations où notre entourage ou dans notre propre famille, il y a eu des cas traumatiques pour des enfants, Comment est-ce qu'on prend contact avec vous? Puis pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Quelqu'un pourrait dire, j'ai pas le goût de revivre ça, ou il y a un traumatisme à même viser un conseil pour la chose. Pourquoi est-ce qu'on devrait penser à vous? Et comment on ferait pour vous rejoindre si on pensait à vous?
Oui, bien d'abord, quand on est au courant d'une situation de violence sexuelle qu'on en fait envie, c'est vraiment très important là, de communiquer avec les policiers ou avec la protection de la jeunesse. Puis c'est eux qui vont mettre en place des interventions pour s'assurer que l'enfant est en sécurité, autant sur le plan physique que psychologique. Donc, même si l'enfant ou l'adolescent dit « j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de revivre ça », reste qu'il peut vivre une certaine détresse. Donc, c'est important quand même de lui offrir du soutien par rapport à ça. Puis c'est ces intervenants-là qui vont faire la référence à Marie-Vincent. Nous, comment on fonctionne aussi, c'est qu'on ne forcera jamais un enfant, un adolescent à recevoir des services, donc c'est volontaire. Puis s'il y a certains sujets qu'il ne souhaite pas adresser ou qu'il n'est pas prêt, on lui tordra pas un bras, on l'obligera pas à parler de situations précises s'il ne veut pas le faire. On va respecter son rythme.
Est-ce qu'il y a des coûts pour les gens qui reçoivent vos services?
Non, les familles n'ont rien à débourser. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de financement là, autant public que privé, pour pouvoir offrir ces services-là gratuitement là, à tous les jeunes et leurs familles.
Madame Anne-Charlotte Giverne-Héroux de la Fondation Marie-Vincent, merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous expliquer ça aujourd'hui, puis bravo pour votre travail. Au plaisir.
Bien, merci. Au plaisir.
Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde. Analyse le monde dans tous ses états. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver Guillaume Lavoie, animateur à Cube Radio. Bon après-midi, Guillaume.
Bon après-midi.
On se parle de Sarah Palin aujourd'hui, l'ancienne gouverneure de l'Alaska qui a subi une autre défaite. Là, c'est la deuxième en l'espace de 3 mois. Elle qui tentait un retour en politique. Qu'est-ce que ça signifie, ça, pour les Républicains?
Peut-être la lumière au bout du tunnel, quelque part, parce qu'au-delà de si on aime ou on n'aime pas Mme Palin, elle est venue au monde politiquement. C'était d'abord une mairesse d'une petite ville en Alaska. Et en 2006, elle a fait une espèce d'assaut contre l'establishment du Parti républicain, en s'en prenant aux médias, aux élites, au pouvoir, en étant très, je dirais, populiste dans son approche, et ça a fonctionné. Et déjà en 2006, il y avait cette idée qu'un nouveau modèle d'affaires politique pouvait être payant. Et là, elle a été projetée sur la scène nationale, sinon mondiale, lorsqu'en 2008, John McCain a fait d'elle sa candidate à la vice-présidence, qu'il a un peu regretté par la suite. Mais il y avait cette idée de s'en prendre, de changer les codes. Hein, maintenant, un bon républicain, c'est quelqu'un qui attaque l'establishment, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement un réflexe de sens de l'État.
C'est comme si elle avait donné le ton avant même l'époque de Trump.
C'était Trump avant Trump, parce que ce qu'elle incarnait, choses auxquelles elle touchait, les codes, les cordes qu'elle faisait vibrer, c'est un peu ce que les penseurs, comme Steve Bannon, avaient dit « voilà le modèle ». Et Steve Bannon se cherchait un cheval, quelque part, pour courir sa course. Et comme Mme Palin ne voulait pas continuer, c'est Donald Trump qui a été un peu l'homme engagé de cette volonté-là. Populiste, les médias, c'est l'ennemi. Les gens d'affaires, c'est les ennemis. Le sens de l'État, c'est pour les autres. Et Mme Palin et Trump ont donné naissance comme ça à une génération de candidats et de politiciens républicains très populistes qui ont un peu fait déraper le Parti républicain standard. Et Mme Palin, elle était la pionnière en 2006 de ce modèle-là. Et peut-être que là, elle est la pionnière de la mort tranquille de ce modèle-là. Et là, on voit peut-être le début du commencement d'un rejet au sein du Parti républicain, un rejet au sein de l'électorat de cette façon de faire de la politique.
Et on le disait d'emblée, bon, nouvelle défaite, deuxième en l'espace de quelques mois pour Mme Palin. Mais c'est une défaite pour Trump aussi parce que il était venu, il s'était déplacé en Alaska l'été dernier, Guillaume, pour venir prêter main forte à Sarah Palin.
On pourrait dire que c'est un autre candidat, une autre candidate qui, appuyée par Trump, parce que Trump vend toujours sa marque de commerce, c'est « avec moi, vous allez gagner ». Mais là, il y en a beaucoup qui disent « avec lui, j'ai perdu, soit à cause de lui ou autre ». Mais l'étiquette de me coller Trump dans le front, c'est moins payant qu'avant. Et de plus en plus des leaders républicains disent « vous savez, avec Trump, moi, je l'aime bien, mais je suis tanné de perdre ». C'est sévère, ça, comme jugement. À cause de lui, on a perdu en 2018, on a perdu en 2020, on vient de perdre en 2002. Ben, je suis tanné de perdre, il faut que je change.
Début de la fin, néanmoins, Trump qui veut se présenter dans cette course à l'investiture pour le Parti républicain pour la présidence de 2024. Est-ce que ça change quelque chose pour Trump ou pas du tout? Parce que de toute façon, il fait souvent fi de la réalité.
Oui, là-dessus, il va trouver une autre excuse. De toute façon, Mme Palin n'a pas perdu. L'élection lui a été volée. C'est un peu la logique qu'il va prendre. Il y a deux choses majeures. M. Trump peut tout à fait gagner la nomination républicaine s'il y a trop de candidats contre lui. Alors, est-ce que les républicains modérés, responsables, trempés dans le sens de l'État, vont se parler avant et dire, bon, mais c'est lequel d'entre nous qui va y aller? Parce qu'il y a une base forte. L'autre danger, c'est que Trump dise, bien, si vous ne voulez pas de moi, je vais me présenter comme indépendant. Et j'aime pas mal mieux vous voir perdre, vous, que moi, je ne gagne pas. Alors, est-ce qu'il va devenir un peu l'espèce de terroriste du Parti républicain, là, qui serait lui-même une bombe ou en se faisant détonner, un espèce de pacte meurtre-suicide, ou en se disant « j'aime mieux vous voir perdre que de voir mes adversaires, Ron DeSantis ou d'autres, gagner ». C'est pas exactement très loin de la personnalité de Trump.
Les premiers balbutiements de cette course, on devrait les voir apparaître, bon, évidemment, tout de suite après les résultats de mi-mandat, on en a eu un petit aperçu, mais dans les faits sur le terrain, ça risque de commencer quand, selon toi, Guillaume?
Bien, je vous dirais que c'est déjà commencé. Il y a des déclarations, il y a des gens qui sont bizarrement invités. Alors, il y a des symboles que vous pouvez suivre. Il y a un peu des symboles de météo, là, comme quand on voit les oies partir là, pour l'automne. Qui va publier un livre? Regardez ça, ça c'est un premier indicateur. Qui, par hasard, a des visites à faire en Iowa, au New Hampshire? Ça trompe pas. Alors ça, c'est des manières de tester la température de l'eau. Le livre, les visites au New Hampshire, en Iowa, ça nous donne déjà une bonne idée de qui commence à y penser.
Guillaume, merci beaucoup.
Au plaisir. C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Cube Radio. Je veux remercier Marianne Bessette, Cybèle Olivier, Charlotte Duquette et Charlie Marchand qui ont aidé à mettre tout ça ensemble. Je vous dis à demain et au plaisir.
Cube Radio.